BW. Magazine Santé.
Bonjour à toutes et à tous. Peut-être connaissez-vous quelqu'un dans votre entourage qui bégaye, c'est-à-dire qui a des difficultés à s'exprimer de manière fluide. La personne répète des sons. Par exemple, elle va dire bégaiement. Ou alors elle prolonge des sons. Il arrive parfois aussi qu'elle n'arrive plus du tout à parler. Ce trouble qui touche plus de 70 millions de personnes dans le monde peut avoir des répercussions importantes sur la vie sociale et professionnelle. Vous entendrez le témoignage d'une orthophoniste spécialisée dans le bégaiement. Et puis la semaine dernière déjà, on parlait du cancer du sein et de sa prévention en Côte d'Ivoire. Cette semaine, direction le Tchad, où il est quasi impossible de se faire soigner. C'est Constance Fischer au micro. Bienvenue à l'écoute de votre magazine Santé. I'm a scat man. Ce tube a été lancé en Allemagne dans les années 90 avant de se vendre à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde entier. Son auteur, Scatman John, un pianiste américain qui souffre de bégaiement depuis son enfance et qui finit par découvrir que son handicap lui permet des prouesses vocales, comme dans cette chanson qui l'a rendu célèbre. Le bégaiement n'est pas une maladie dont on guérit, mais c'est un trouble dont on peut sortir. On en parle avec Sylvie Brignone, orthophoniste spécialiste du bégaiement. Elle sait bien de quoi elle parle pour avoir elle-même bégayé dans sa jeunesse et pour avoir une fille qui a été touchée par le bégaiement quand elle était petite. Elle a également effectué plusieurs voyages en Afrique francophone pour partager son expérience et en tant que membre de l'association Parole Bégaiement, elle nous explique tout d'abord ce qu'est le bégaiement.
Eh bien, le bégaiement, c'est un trouble qui touche la fluidité de la parole, qui apparaît dans la plupart des cas, dans 90% des cas, avant l'âge de 6 ans. Et on sait maintenant qu'il y a des origines neurologiques à une fragilité, une prédisposition à la naissance de ce bégaiement. Mais ça ne change rien à la qualité des traitements. Si la prise en charge est précoce et si on arrive à aider le bégaiement qui naît chez l'enfant, eh bien, on sait qu'on a toutes les chances de l'en sortir assez tôt. Se dire qu'un enfant qui bégaye depuis plus de 6 mois et qui a plus de 3 ans et demi, eh bien, il faut vraiment mettre en route une prise en charge. Voilà.
Concrètement, j'imagine qu'il y a plusieurs formes de bégaiement possibles ou plusieurs grades aussi.
Alors, la gravité du bégaiement, évidemment, elle se manifeste par des blocages très importants et un enfant qui est hyper gêné dans sa communication. Mais moi, je dirais que cette dimension, elle est aussi majorée si l'enfant présente des problèmes de langage, un retard de langage, voilà, avec des difficultés à articuler les mots, etc. Parce qu'on a des enfants qui bégayent, mais qui ont parlé très tôt et qui ont un très bon niveau de langage. Ça peut être complètement différent. Et là, on a quand même un pronostic qui est plus favorable, entre guillemets.
Est-ce qu'il arrive aussi que des gens qui ne bégayaient pas enfant, que ça vienne après, à l'âge adulte?
Oui, alors ça peut arriver. C'est beaucoup plus rare. On peut avoir un pic, notamment à l'adolescence, au moment des changements hormonaux. Et puis, on peut avoir aussi des bégaiements qui arrivent après un traumatisme crânien ou après des problèmes neurologiques plus isolés, entre guillemets. On peut garder une certaine fragilité, évidemment, mais on peut en sortir et on peut vivre très bien avec. Voilà. Et on peut en sortir complètement si on s'en est occupé très tôt.
Et apparemment, vous en êtes l'exemple vivant.
Voilà, écoutez, moi, vous voyez, là, je ralentis ma parole, je me suis assise, je me suis posée pour être au calme. Si je vais très vite, je vais peut-être avoir des disfluences et ça va peut-être me gêner. Donc, j'essaie de tout mettre en œuvre pour que ma communication soit facile. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire du théâtre et du chant.
Est-ce qu'à l'époque, oui, vous avez eu des expériences, ou votre fille peut-être, des expériences désagréables? Parce que ce n'est pas facile, évidemment, de communiquer avec quelqu'un qui bégaye.
Oui, moi, c'est vrai que j'ai malheureusement était dans une classe où mon professeur de français n'avait pas compris mes difficultés. Et c'était très difficile pour moi de lire à voix haute devant la classe. Et j'aurais bien aimé être aidée à l'époque, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut en parler avec les enseignants parce qu'ils sont dans la plupart des cas tout à fait bienveillants et demandeurs de conseils et capables d'aider. Ça permet de sensibiliser tout le monde en montrant que ça peut être une vraie souffrance quand on n'arrive pas à communiquer.
Est-ce que de votre expérience passée, vous avez l'impression que le problème du bégaiement en Afrique francophone est abordé très différemment ?
Oui, c'est vrai que l'approche est différente. Bon, c'est en train d'évoluer grâce à toutes les associations qui existent dans plusieurs pays d'Afrique. Et puis, on a créé aussi une école d'orthophonie francophone avec des professeurs orthophonistes qui ont été formés dans le domaine du bégaiement au Togo, à Lomé. Hein. Et cette école d'orthophonie forme des orthophonistes pour tous les pays d'Afrique francophone. Mais malheureusement, c'est des petites promotions, une quinzaine par année. Donc, vous voyez, c'est pas encore énorme comme diffusion. En Afrique, ça peut être considéré dans certains villages comme une malédiction et ça peut être très mal vécu par l'entourage. Il arrive souvent que les moqueries soient beaucoup plus ouvertes, ce qui fait que les gens peuvent être extrêmement blessés par ces moqueries. C'est bien d'informer les parents aussi, de dire que le bégaiement, ça évolue et on peut en sortir. Et puis, considérer l'enfant qui bégaye comme quelqu'un qui peut être extrêmement intelligent. On a aussi beaucoup d'enfants à très haut potentiel qui bégayent.
Merci à Sylvie Brignone pour son témoignage et ses explications sur le bégaiement. Sur la page de ce magazine, vous trouverez l'adresse du site internet de son association avec un tas de conseils utiles sur la question. On prend maintenant la direction du Tchad où le cancer est en train de devenir un véritable problème de santé publique. Un problème d'autant plus grave qu'ici la prise en charge des patients est pour ainsi dire inexistante. Le traitement de la maladie implique des investissements importants en termes notamment de plateaux techniques, les professionnels manquent. Du coup, de nombreux Tchadiens sont obligés d'aller se faire soigner à l'étranger, à condition évidemment d'avoir les moyens. On fait le point tout de suite avec Blaise Dariustone, notre correspondant à N'Djamena, la capitale tchadienne.
Il a fallu une campagne de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus organisée par la Ligue tchadienne en charge de la lutte contre le cancer en octobre 2018 pour se rendre à l'évidence. Longtemps négligé, le cancer tue à petit feu au Tchad. Le docteur Manikassé Palouma est le directeur exécutif de la Ligue tchadienne contre le cancer.
On a eu à dépister 1670 femmes. Parmi ces 1670 femmes, on a eu à suspecter 457 cas, parmi lesquels on a 291 cas suspects de cancer du col et 166 cas suspects de cancer du sein, ce qui fait à peu près une prévalence de 27,36%. Juste une estimation. Et donc, ces chiffres témoignent déjà à suffisance que le danger de cette maladie existe réellement.
Mais une fois dépistées, toutes ces femmes déclarées atteintes de cancer sont abandonnées à leur triste sort. Faute de structure de prise en charge de cette maladie au Tchad et à défaut de moyens pour se rendre à l'étranger pour se soigner, elles vivent avec la peur au ventre. C'est le cas de l'Argoto.
On m'a dit que j'avais le cancer et en même temps, on me dit qu'on ne peut pas me soigner ici au Tchad. Il faut que j'aille à l'étranger pour me soigner. Mais avec quel argent? Même pour trouver à manger, c'est difficile. Et je ne sais pas combien de fois il faudra que j'aille me faire soigner hors du pays. Je ne sais pas ce que je vais faire. Donc ma vie est entre les mains de Dieu.
Samira Alkali est elle aussi victime de cette maladie. En 2007, on lui diagnostique un cancer. Elle a pu se soigner grâce à ses propres moyens en France. D'autres femmes n'ont pas cette chance, faute d'argent.
En 2007 déjà, il y a une méconnaissance totale de la maladie. Je dirais que même les gens en font un tabou, personne n'en parle. Vous ne trouvez pas des explications ni au niveau médical. Donc j'ai décidé d'aller en France pour me faire traiter. Comme la maladie était vraiment à un stade précoce, ils ont sauvé les choses très tôt juste par une chirurgie. Durant 6 ans, je suivais tout le temps le contrôle médical. Malgré ce contrôle très régulier, j'ai fait une rechute. Là, j'ai eu encore à repartir en France, où j'ai eu presque une année là-bas. J'ai compris que dans la même situation, beaucoup de femmes peuvent se retrouver sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
Consciente de l'ampleur de la situation, Samira Alkali avec ses amis, toutes victimes de la maladie ont décidé de mettre sur pied une association dénommée Donnons-nous la main. Objectif principal, faire de la prévention.
Nous, on est un groupe d'amis qui tous ont été concernés par la maladie. Amis et parents, on était vraiment de près ou de loin concernés par la maladie. Au départ, on était au nombre de 12. On a décidé ensemble de créer l'association. Et on s'est inscrit à l'Union internationale contre le cancer. D'où on a reçu d'abord au départ une formation pour les 11 membres de l'association. Donc ça nous a permis vraiment qu'on peut faire des choses, surtout en matière de prévention. Donc dès qu'on a pu mettre en place notre bureau, on a fait la première chose, c'était une campagne de sensibilisation avec les écoles pour faire des préventions. Je crois en ça parce que je vois que les choses ont beaucoup évolué depuis 2014. Les gens s'intéressent maintenant au cancer, les gens cherchent les informations. On n'a même pas besoin d'aller les chercher, ils viennent vers nous.
Une situation dont est bien conscient le gouvernement tchadien, estime le coordinateur du programme national de lutte contre le cancer. Des efforts, dit-il, sont en train d'être faits pour la construction d'une structure de prise en charge des malades de cancer sur place. Abdelkader Ibrahim Mahamad.
C'est vrai, comparé à d'autres pays, le Tchad est encore à un état embryonnaire par rapport à la prise en charge des cancers. Mais vraiment, il y a la Banque islamique de développement qui est prête à appuyer le Tchad. Le Tchad a soumis un projet de la construction d'un centre anticancéreux. On était parti défendre ça à Vienne. Et l'AIEA, qui est un partenaire, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, basée à Vienne, qui appuie le Tchad pour la construction de centres anticancéreux.
À ce jour, il est difficile d'avoir une idée sur le nombre exact des personnes atteintes de cancer au Tchad, faute d'un registre sur la question. Les types de cancers détectés le plus souvent chez les patients au Tchad sont le cancer du col de l'utérus et des seins chez les femmes et le cancer de la prostate chez les hommes. Blaise, Darius Ton, Andiamena, Paula de Chevelet.
C'est la fin de cette édition du magazine Santé, enfin pas vraiment, puisque vous pouvez le retrouver dans la rubrique médiathèque de notre site internet dw.com/français. Bonne semaine à toutes et à tous, restez en bonne santé et à l'écoute de la DW.